Que la paix du Seigneur soit votre partage. Nous allons faire trois lectures, s'il vous plaît. La première dans Romains, au chapitre 15, et au verset 4. Romains, chapitre 15, verset 4e, qui nous rappelle quelque chose pour que nous méditions mieux sa parole. Car vous savez que la Bible a dit « Heureux l'homme qui médite ». Romains, chapitre 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Je le relis, s'il vous plaît. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Amen. À méditer. Psaume 84, verset 6. Ce que nous venons de lire nous montre que si nous méditons les choses qui ont été écrites, nous aurons de l'espérance. C'est important d'avoir de l'espérance ? Oui. Psaume 84, verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracé. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob, pose. Vous retenez ce mot ? Pause, on y reviendra tout à l'heure. Et nous allons lire maintenant le texte qui nous préoccupe ce soir. C'est dans 2 Chroniques, au chapitre 20, l'histoire d'un roi qui a été un grand roi. On peut dire que c'était un grand roi parce qu'il a bien terminé, premièrement, et puis il s'est beaucoup confié en Dieu. On va lire cette histoire, elle est un peu longue, mais pour ceux qui ne l'ont jamais lue, et pour que vous compreniez bien quelle a été l'attitude de cet homme pour faire une belle expérience avec Dieu, nous allons la lire en entier, s'il vous plaît. 2 Chroniques, chapitre 20. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 1er. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson Tamar, qui est en Enguedi. » Ça vous dit peut-être rien, mais quand vous regardez dans une carte, ils étaient qu'à une journée de marche. Donc ça a pressé. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations ? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister ? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait ? Ils l'ont habité, ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant toi, devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu nous exauceras. Et tu nous sauveras. Maintenant voici, les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits, les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux ? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors, L'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaïa, fils de Jeiel, fils de Matania, lévite, d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, « Soyez attentifs, tout Judas, et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tzitz, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez pas à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. » Josaphat s'inclina, le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites, d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le départ de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. » Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'était des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles, ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Béraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu « vallée de Béraka », nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Retenez bien cette expression comme elle est belle. Son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Josaphat régna sur Juda, il avait 35 ans lorsqu'il devint roi et il régna 25 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Azuba, fille de Shilpshi. Il marcha dans la voie de son père, Asa, et il ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Amen. C'est une longue histoire, mais je pense que ça valait la peine qu'on la lise en entier. Josaphat était un bon roi, on le voit. Après certaines expériences, il a mené le repos de tous les côtés. C'est bien car par ces expériences, on amène la bénédiction autour de soi. C'est pas bien? Cet homme, il a amené le repos. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un grand roi, parce que quand un homme, par ses expériences, amène la bénédiction sur tous les autres, et qu'il fait ce qui est droit aux yeux de Dieu, et qu'il termine sa course comme ça, même si tout n'a pas été comme peut-être il aurait pu faire mieux encore, comme chacun d'entre nous, une chose est sûre, il a fait une expérience, une très belle expérience, qui nous permet à nous, de savoir où nous en sommes avec Dieu et comment nous réagissons dans les épreuves que nous traversons. Cet homme, on le voit à la fin, vous avez vu, il a connu le repos, il a fait ce qui était droit aux yeux de Dieu. On ne voit jamais un homme épuisé, jamais. Et beaucoup de chrétiens sont épuisés par rapport à leur foi. Ils ne sont pas entrés dans ce repos de tous les côtés. Ils sont passés à côté de cette grâce de Dieu alors que la Bible nous demande de nous empresser de rentrer dans ce repos. Un jour, il apprend donc que les trois nations païennes sont à ses portes, parce que vous avez vu, le lendemain, ils étaient à côté. C'est une chose qu'un pays apprenne qu'à 2000 kilomètres, il y a une nation qui marche à sa rencontre pour l'attaquer. C'est une chose que de savoir que dans 24 heures, tout va être détruit. C'est exactement ce qui se passait à cette affaire-là. Donc, vous avez vu la quantité de richesses considérables qu'avaient les nations païennes qui venaient attaquer, ce qui veut dire qu'ils ne venaient pas leur voler du blé, quelques affaires, le vin et de l'argent et repartir. Ils venaient détruire la nation et s'installer à leur place. C'est exactement ce que ça voulait dire. Ils venaient s'approprier le pays, comme on le voit dans certains endroits. Donc, ils n'étaient qu'à quelques heures de Jérusalem, et ça veut dire que le problème était vraiment urgent. On comprend pourquoi il est écrit que dans sa frayeur, il était là dans sa frayeur. Comment réagiriez-vous si vous apprenez qu'à une heure de marche, il y a quelqu'un qui vient pour vous tuer? Voilà, donc, dans sa prière, il parle de sa détresse, et c'est ce qui est extraordinaire, que tout en ayant foi en Dieu, il ait l'honnêteté de parler de sa détresse. Vous voyez que c'est pas, ça paraît bizarre. D'un côté, il fait une belle expérience avec Dieu, mais il a cette honnêteté. Il parle dans sa frayeur, il parle de sa peur et de sa détresse. Humainement, il n'y avait pas de solution. Et Dieu a voulu que dans la Bible, il y ait plusieurs affaires comme ça tout le long de l'histoire pour que nous comprenions une chose, qu'il y a des situations où il n'y a pas de solution. Et Dieu permet que parfois, nous ne sachions pas quoi faire. C'est comme ça. Et ça provoque une véritable frustration. On ne sait pas quoi faire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? De vous trouver dans une situation, on ne sait pas quoi faire. Et il y a là une attitude de cœur qui va amener Dieu à intervenir, ou justement qui va amener Dieu à ne rien faire. Et c'est ça les problèmes des épreuves. Beaucoup de chrétiens sont effondrés, beaucoup de chrétiens abandonnent Dieu, beaucoup de chrétiens s'interrogent même sur l'amour de Dieu, j'allais dire sur l'existence, non, quand un gars qui est passé par la repentance et qui a commencé une conversion ne pourra plus jamais douter de l'existence de Dieu, c'est pas possible. Mais des chrétiens se sont effondrés, la Bible dit que certains abandonnent la foi à cause de l'iniquité, mais il y a beaucoup de choses que comporte le mot iniquité. L'amour se refroidit. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont épuisés, ils sont remplis de sentiments de culpabilité. La culpabilité, la vraie culpabilité, c'est bien la vraie culpabilité. Vous commettez un péché, vous vous sentez coupable, c'est très bien. Ça vous permet de vous repentir réellement. Mais il y a des chrétiens, ils sont tout le temps dans une pseudo-culpabilité, une fausse culpabilité, toujours en train de se condamner. Ah, si j'avais davantage de foi. Quand quelqu'un a peur, quand quelqu'un est dans la crainte, il peut laisser l'ennemi faire tout un travail de sape. Et une personne peut dire, ah, si j'avais davantage de foi, ben, ça ne serait pas arrivé. Est-ce que ça peut arriver quand dans les épreuves, déjà, ah, ben, c'est parce que je n'ai pas la foi. D'ailleurs, on l'entend, il y a des gens spécialisés dans le courage qui sont en train tout le temps de dire, ben, si tu as une épreuve, eh ben, c'est que tu n'as pas la foi. Ne dites jamais ça à quelqu'un. Vous pouvez faire l'œuvre du diable en parlant comme ça. Quand vous regardez tout ce qui s'est passé avant, je peux vous dire que Josaphat avait fait des réformes pour le bien de son pays. Croyez-moi, c'est un homme qui s'était appliqué à faire de bonnes choses pour Dieu. Et ce n'est pas parce qu'il avait péché que cette affaire lui est tombée dessus. Et l'ennemi veut une chose, c'est que nous nous culpabilisions continuellement pour rien, que nous nous condamnions pour rien. Ah si, si j'ai peur, tiens, c'est que je n'ai pas la foi. Est-ce que Josaphat a eu peur? Est-ce qu'il a eu peur? Oui. Est-ce que ça l'a empêché de faire une expérience avec Dieu? Non. Et il faut bien le comprendre. Parce que le diable, c'est un spécialiste. Pour essayer de vous faire croire que si vous avez des craintes, si vous avez peur, eh bien, c'est parce que vous n'êtes pas bien avec Dieu. Ah, si j'avais davantage prié. Combien de fois on me l'a dit? Ah, si j'avais davantage prié. Si j'avais davantage jeûné. Si j'avais davantage lu ma Bible. Peut-être que j'aurais pas eu cette épreuve. Peut-être que Dieu n'est pas content de moi. Parce que j'ai pas fait des progrès. Alors c'est normal que j'en sois là et que je sois oppressé par le diable. Et beaucoup de chrétiens ont abandonné la foi. C'est terrible à cause de la crainte. Et pourtant, nous voyons dans cette affaire que Josaphat a été rempli de frayeur. Ça peut arriver. Nous pouvons éprouver certaines craintes. Qu'est-ce que ça nous enseigne, ça? Rappelez-vous ce qu'on a lu au début. Toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous ayons plein d'espérance. Eh bien, ces choses nous rappellent une chose, ces affaires, ces épreuves, cet enseignement nous rappellent quelque chose, c'est que nous ne sommes que des sarments, faibles et fragiles, et que de par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Et ça, il faut l'accepter, que dans des situations, nous ne pouvons rien faire. La crainte devrait toujours nous faire réaliser que nous devons dépendre de Dieu. La crainte et les problèmes ne doivent pas nous éloigner de Dieu avec une fausse culpabilité et une mauvaise condamnation. La crainte doit nous rappeler que nous devons dépendre de Dieu. Cette crainte-là n'est pas un péché. Est-ce que vous comprenez? Il y a des réactions qui ne sont pas forcément des péchés. C'est normal d'avoir peur. Si on vous disait que tout à l'heure, quelqu'un à la sortie va vous tuer, est-ce que ça serait normal que vous ayez une forme de crainte? Ben oui. Voyez? C'est tout à fait normal. Il y a des réactions qui sont humaines face à des circonstances qui se présentent dans la vie de tous les jours. Oui, et ce n'est pas parce que nous sommes dans l'épreuve que nous sommes dans le péché. Il faut bien le comprendre, ça. Moi, je suis troublé, parfois troublé, peiné surtout, de voir des chrétiens qui, dès qu'ils sont dans l'épreuve, ils cherchent une explication mauvaise. Voilà, je n'ai pas assez jeûné, M. Gros, je n'ai pas assez prié, je devrais lire davantage ma Bible. C'est possible qu'on doive peut-être prier davantage. Est-ce que c'est possible qu'il faille prier davantage? Oui, c'est possible. Moi, je crois que ça peut arriver. Mais quand nous sommes dans l'épreuve, comment réagissons-nous vraiment? Est-ce que nous laissons nos sentiments, nos émotions, nos impressions? Si vous savez, le mot que j'ai le plus entendu depuis que je suis pasteur, Monsieur Gau, j'ai l'impression que je ne vais pas bien. J'ai l'impression que Dieu ne m'aime pas. J'ai l'impression que... Et si vous voulez vous éloigner de Dieu, vivez avec des impressions. Et cette histoire, elle est là pour nous montrer qu'il ne faut pas vivre avec des émotions, avec des sentiments, mais qu'il faut vivre par la foi. Et ne pas remettre en question l'alliance que Dieu a faite avec nous. Dieu a fait une alliance avec nous. Vous savez, au calvaire, Dieu ne nous a pas sauvés que de l'enfer. Au calvaire, si vous lisez l'Épître aux Hébreux, vous voyez que Dieu a fait une alliance avec nous. Et si vous lisez dans l'Hébreu 10, verset 16, « Voici l'alliance que je ferai avec vous. » Est-ce que vous avez réalisé que quand vous vous êtes converti, que vous êtes rentré dans le royaume de Dieu, Dieu a fait une alliance avec vous? Est-ce que vous le savez? Vous le savez? C'est écrit dans la parole de Dieu. Et cette alliance, dans cette alliance, il nous rappelle que jamais il ne nous abandonnera, que jamais il ne nous quittera. Il l'a dit ça ou il l'a pas dit? On va le lire quand même, dans Hébreux chapitre 13. C'est important. C'est vrai que Dieu a dit à des hommes dans l'Ancien Testament, « Je t'abandonnerai jamais. » C'est bien? Est-ce que c'est bien? C'est bien. Mais regardez, il ne l'a pas dit qu'à Gédéon, qu'à Moïse, qu'à Josué. Il le dit à qui dans le Nouveau Testament? Hébreux 13, verset 5. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps, ce verset en plus. Hébreux chapitre 13, verset 5. C'est la deuxième partie du « Nous intéresse ». Du verset qui nous intéresse, il est parlé de l'amour de l'argent, quoique c'est lié. Quoique c'est lié. Alors contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme. Vous savez, un des résumés de l'alliance que Dieu a faite avec chacun de nous. Cette alliance doit nous rappeler par les promesses que Dieu ne nous abandonnera jamais. C'est important. Voyez, et comme Josaphat a bien réagi, regardez un peu une autre histoire. Dans Ésaïe, ça s'est passé bien des années plus tard, mais regardez un petit peu comment ça s'est passé. Dans le prophète Ésaïe, au chapitre 7, il y a eu une affaire pareille, à peu près pareille. Regardez, alors c'était du temps du roi Akaz, c'est pareil, c'était des nations étrangères qui viennent assiéger Jérusalem, qui nous parlent de ces problèmes tellement compliqués. Regardez, Ésaïe chapitre 7, verset 1er. Il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Retsin, roi de Syrie, monta avec Pélak, fils de Remalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger. Mais il ne put l'assiéger. On vint dire à la maison de David, « Les Syriens campent en Éphraïm. » et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. » Voilà comment Dieu décrit la peur qu'il y avait dans le cœur de cet homme. Elle est belle cette image en même temps. Vous voyez, le cœur de son peuple fut agité comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. C'est pour vous dire la frayeur qu'il devait y avoir dans le cœur de cet homme. Et Dieu va lui parler par le prophète, il va lui demander comment il doit réagir. Regardez au verset 4. Au verset 4, « Dis-lui, sois tranquille, ne crains rien et que ton cœur ne s'alarme pas. » Et vous voyez comment Dieu voyait ces deux nations, devant ces deux bouts de tison fumant. Donc Dieu n'a pas tout à fait la même vue que nous. Au chapitre 8, regardez, au verset 12 et 13, regardez bien, parce que ce qu'on lit, ça a été écrit, je l'ai dit tout à l'heure, pour notre instruction, pour qu'on connaisse la consolation. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. C'était une alliance, ça, que les peuples avaient fait entre elles, cette conjuration. Ne craignez pas ce qu'ils craignent. Ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre. Vous avez vu la différence? Et redoutez. Dieu est en train de dire, ne craignez pas les ennemis, craignez-moi à moi. C'est ce que Dieu est en train de leur dire. Et c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et voilà, c'est une question de regard en fin de compte. Comment regardez-vous l'adversité? Et comment regardez-vous Dieu? Donc, Josaphat a la crainte. La crainte n'est pas forcément un péché. Elle ne venait pas d'un péché. Par exemple, Adam, quand il a péché, il a eu peur. Là, c'était le fruit du péché. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour vous expliquer que la crainte n'est pas toujours le fruit du péché. La crainte peut être le fruit, le résultat d'une épreuve qui est en train de nous tomber dessus. Josaphat, nous revenons à Josaphat, il choisit, malgré la crainte, il choisit de chercher Dieu. Et bon, là, il y a beaucoup de choses à expliquer de nouveau. C'est quoi chercher Dieu? Est-ce que parce qu'on crie vers Dieu, on cherche Dieu? Est-ce que parce qu'on prie, est-ce que parce qu'on va à l'église, est-ce que parce qu'on jeûne, on cherche Dieu? Est-ce que les pharisiens jeûnaient? Oui. Alors, on peut crier à Dieu et en même temps avoir un très mauvais état d'esprit. J'ai pensé, quand j'ai préparé cette prédication, on va le lire dans Exode au chapitre 14, il y a un texte où quand ils se rendent compte qu'ils sont coincés entre la mer Rouge et les Égyptiens qui viennent les détruire, il commence, regardez, on va lire le verset 10. Je peux vous dire, ça paraît spirituel parfois, mais ce n'est pas parce qu'on fait certaines choses qu'elles sont spirituelles. Exode 14, verset 10, Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont crier à l'Éternel. Mais voyez, c'était charnel en fin de compte. Il dira à Moïse, voyez, d'un côté il crie à Dieu, et de l'autre il se plaigne. N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là que nous te disions en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert? Vous n'avez absolument rien compris au plan de Dieu. Vous allez me dire, on aurait fait peut-être pareil. D'accord. Mais ce que je veux vous expliquer surtout, c'est qu'ils ont crié à Dieu, mais Moïse va les réprimander parce qu'en fin de compte, ils n'ont pas cru à ce qu'ils disaient. Parce que dès qu'ils ont crié à Dieu, ils ont commencé à se plaindre, on n'aurait pas dû faire ci, on n'aurait pas dû faire là, et tu n'aurais pas dû nous amener ici, et jamais ça aurait dû se passer comme ça. Ce qui peut vous dire, c'est pour vous dire qu'on peut jeûner, prier, lire sa Bible. Il y a des gens, on leur dit, écoute, tu n'as qu'à réciter des promesses, tu n'as qu'à réciter en boucle des promesses, tu verras, ça va te fortifier. Je ne crois pas que ce soit ça, chercher Dieu. Chercher Dieu, c'est plus que faire des prières, c'est vraiment s'arrêter. C'est vraiment s'arrêter devant Dieu et de réaliser l'alliance que Dieu a faite avec nous. Mes frères et sœurs, chercher Dieu, ce n'est pas s'abrutir de prière, quoique moi j'aime passer des heures en prière. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ne me faites pas dire que je ne crois pas dans la prière. Mais chercher Dieu, c'est plus que de se confier dans ses prières. Chercher Dieu, c'est réaliser surtout que Dieu a fait une alliance avec nous. Et si je vous ai demandé tout à l'heure de vous arrêter sur le mot « pause » du psaume 24, c'est exactement ce que cela signifie. C'est comme si Dieu nous disait « arrêtez, arrêtez-vous un moment et réfléchissez à ce qui est écrit ». Pause, on le voit souvent dans les psaumes, vous avez remarqué ? C'est un enseignement pour que nous nous arrêtions et que nous réfléchissions. Et je crois que chercher Dieu, ça commence dans cet état d'esprit. Par exemple, on peut lire le psaume 46, parce que je le lisais tout à l'heure aussi. Dans le psaume 46, on le voit trois fois le mot psaume, pause. Et à partir d'aujourd'hui, peut-être que vous ferez attention et vous lirez ce qui est écrit chaque fois avant le mot pause. Et vous verrez que ça mérite d'être médité. Par exemple, le psaume 46, C'est un psaume qui nous encourage à réaliser combien Dieu est tout-puissant. Voyez, psaume 46, verset 2, « Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. » Vous ne trouvez pas que la terre est bouleversée en ce moment? Est-ce que vous êtes dans la crainte? C'est bien. « C'est pourquoi nous sommes sans crainte. » Verset 4, « Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. » Qu'est-ce qu'il y a écrit après? Pause. Ça vaut la peine de s'arrêter. C'est ça, chercher Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Parce que bon, le mot pause, on va vous dire, oui, c'est une pause musicale, il y avait un intermède musical, vous savez, comme dans les chansons d'aujourd'hui, il y a un moment de... Des fois, il y a un couplet, un refrain, puis après, il y a une pause musicale. Oui, mais ça veut dire, arrête-toi et réfléchis. Voyez au verset 8. Verset 7, « Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante, l'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » Pause. Et à la fin du psaume, « L'Éternel des armées, verset 12, est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » Pause. D'ailleurs, au verset 11, c'était écrit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations. » Vous savez, quelqu'un qui tous les jours commencerait sa journée en disant « Oui, Dieu domine sur les nations, Dieu domine sur la terre, Dieu domine sur tout », je crois qu'il peut véritablement penser qu'il cherche Dieu. Et si vous vous levez dans cet état d'esprit, je peux vous dire que vous faites partie des gens qui cherchaient Dieu. C'est important de réaliser que Dieu a fait une alliance avec chacun d'entre nous. Et ça stimule la foi. Mais c'est vrai, à Golgotha, le Seigneur a tout accompli. Il a fait une alliance avec moi. Il est mon Père. Il est mon Père. Vous le croyez? Je suis vraiment son Fils. S'arrêter, c'est que je suis préoccupé par la grandeur de Dieu. Quand vous lisez la prière de Josaphat, mais moi cet après-midi, je méditais ce texte puisque je devais vous le prêcher. Je me disais, mais est-ce que c'est une prière? Ou est-ce que c'est une louange? Moi, je me le demande. Ou si c'est une déclaration de foi. Moi, je crois pouvoir dire que la prière de Josaphat, c'est beaucoup plus une déclaration de foi dans la puissance et la grandeur de Dieu qu'une prière de quelqu'un qui a peur. Il ne nie pas le problème, parce qu'il y a des gens qui disent « Non, 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 ça va bien, il n'y a pas de problème. » Je crois qu'il faut faire attention, il ne faut pas confondre la piété avec le fait de renier les problèmes. « Ça va ? Ouais, ouais, ça va bien, ça va bien. » Josaphat n'est pas en train de nier le problème. Il peut y avoir un problème. N'ayez pas honte parce que vous avez un problème. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Ce n'est pas parce que vous avez un problème que vous devez le cacher. Vous n'êtes pas obligé d'en parler. Ce n'est pas pour ça que vous êtes des hypocrites, parce que des fois, on n'a pas envie de parler d'un problème. Ça, c'est autre chose. Mais Josaphat, lui, il exprime le problème. C'est le roi. Il n'est pas en train de dire, bon, vite, amenez-moi le ministre de la Défense. On va voir quand même si on ne peut pas faire quelque chose avec l'armée. Non, cet homme... Il est préoccupé, vous lisez le psaume, relisez-le, le texte. Il est préoccupé par la grandeur de Dieu. Il passe des sentiments d'une crainte normale, il a peur. et c'est normal qu'il ait peur. Mais il va transposer et il va se mettre à fixer les promesses et l'alliance de Dieu. Regardez au verset 6, si vous y êtes toujours dans 2 Chroniques 20, verset 6, on le voit, c'est quelqu'un qui est en train de faire ce que Dieu veut que nous fassions, à savoir, oui, j'ai peur un peu de, je ne sais pas comment ça va tourner, mais non, 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 je veux me fixer sur l'alliance que j'ai faite avec Dieu au calvaire. Voilà. Et il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'est-ce pas Dieu, n'es-tu pas Dieu qui, dans les cieux, n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations, n'est-ce pas toi qui emmènes la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? C'est une prière ça ou c'est une déclaration de foi? Moi, je crois plus que c'est un homme qui est en train de glorifier la grandeur de Dieu. Et quand vous lisez du verset 6 ou verset 12, parce qu'on l'a lu, mais quand on le relit après toutes ces explications, je peux vous dire que c'est beaucoup plus intéressant. On voit que c'est une louange. Il rappelle l'alliance qu'il a faite avec Abraham, quand il parle d'Abraham, quand il dit la postérité d'Abraham qui t'aimait. Et oui, c'est beau de se souvenir de l'alliance que Dieu a fait avec les hommes, quand il parle de la dédicace du temple avec Salomon. Vous vous rappelez les prières, il fait allusion, quand les ennemis viendront, quand il y aura la peste, la famine, pour, à cause de ci, à cause de cela, eh bien tu seras avec nous. Et Josaphat, il est en train de réaliser que oui, il y a les ennemis à 24 heures, à une journée de marche, mais il réalise qu'avec lui, il y a ce Dieu grand qui domine sur tout. Et la foi ne nie pas l'existence des problèmes, mais place l'affaire calmement entre les mains du Seigneur. La vraie foi, elle dit pas non, 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 j'ai pas de problème. La vraie foi dit oui, oui, il y a un problème. Mais je mets ce problème vraiment entre les mains de Dieu. Et Josaphat termine sa louange, puisque moi j'appelle ça une louange, par une des plus grandes déclarations de foi de la Bible, au verset 12. « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force. » Vous voyez cette honnêteté? C'est un roi quand même, un grand roi. C'est un grand roi, Josaphat. Il n'a pas honte devant toute cette multitude, non, il est dans l'humilité, non. « Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. » Voilà, mais la suite, c'est pas mal. « Mais nos yeux sont sur toi. » Cet homme dit, moi j'attends rien de ma propre force, de mon armée, de ma sagesse, de mes expériences, parce qu'il en a fait des expériences. Et c'est ça aussi qu'il faut faire attention, ne pas s'appuyer sur ses expériences passées. Il n'a pas honte de dire qu'il n'est rien devant toute la nation, il n'a pas honte. C'est beau quand même, hein, un roi qui exprime cette simplicité de cœur. Il n'a pas un esprit de condamnation, il ne se condamne pas, il est là, il est impuissant. Mais il le gère et cette louange va plaire à Dieu. Et vous savez, c'est pour cela que je vous disais, oui, on peut prier, Seigneur, je te fais confiance, Seigneur, tu as dit que les portes du séjour des morts ne prévaudraient pas. Mais le lendemain matin, on se rend compte que ce qu'on a dit la veille, c'était que des paroles. Parce que là, le lendemain, je vous ferai remarquer que quand ils se sont levés, ils étaient exactement dans le même état d'esprit que la veille. Et il y a des chrétiens qui écoutent une prédication, oh, ça m'a fait du bien. Mais c'est le lendemain qu'il faut voir si vraiment ça vous a fait du bien. Parce que le lendemain, ils se sont réveillés, ils étaient exactement dans le même état d'esprit. Et vous avez vu la réponse, Dieu va envoyer le prophète et il va leur dire, écoutez, ne vous inquiétez pas. C'était une façon de dire, écoute, Josaphat, tu me fais confiance. Eh bien, ce n'est pas toi qui combattras, c'est moi qui combattrai à ta place. Est-ce que vous êtes dans ce cas de figure? Est-ce que vraiment vous faites confiance à Dieu? Parce que quand on dit « mes yeux sont sur toi », c'est extraordinaire. Est-ce que vous réalisez, on le chante des fois, les yeux fixés sur Jésus. Bon. Mes frères et sœurs, quand vous regardez, là en ce moment, vous êtes en train de regarder qui? Est-ce que vous pensez, vous me voyez à moi, sérieusement? Vous ne regardez pas vos yeux. Vous avez compris? Quand vous regardez quelque chose, vous ne pensez pas à vos yeux. Vraiment, vous regardez le quelque chose. Et à quoi reconnaît-on quelqu'un qui peut dire vraiment mes yeux sont sur toi? C'est que vraiment, les yeux ne sont plus sur le problème. Cette expression, elle est beaucoup plus forte que ce que nous le pensons. C'est une expression qui prouve que la personne s'est complètement détournée du problème pour se tourner vers la grandeur et la puissance de Dieu. Où vous regardez le problème, où vos yeux sont fixés sur le Seigneur. Et vous avez lu avec moi comment Dieu va dire, mais tenez-vous tranquille, vous allez voir la délivrance, ne craignez point, ne vous effrayez pas, demain c'est moi qui vais m'occuper de l'affaire. Est-ce que Dieu peut faire pareil avec vos problèmes? Et ils ont réagi comment? Vous avez vu comment ils ont réagi? Relisez avec moi le verset 18 et 19. Parce que, quelle réaction vous allez avoir après cette prédication? Est-ce que vous allez dire, oui, c'est bien, c'est biblique. Moi, j'espère que c'est biblique. Deux Chroniques 20, verset 18. Josaphat s'inclina le visage contre terre. Tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour... Je vous dis, on n'est pas dans la prière. On n'est pas dans la prière. On est dans l'adoration. Les Lévites, d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites, se levèrent, qu'est-ce qu'ils font? Pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont terminé cette affaire par la louange, d'une voix forte. L'affaire était réglée. Et je reviens au lendemain. Le lendemain, pareil, cette voix s'exprime. Combien de chrétiens m'ont dit, ah, quand je suis à l'église le soir, c'est formidable, je repars gonflé à bloc. Mais le lendemain matin, eh bien parce qu'ils n'ont pas les yeux fixés sur Dieu. Ils ont les yeux fixés sur leurs problèmes. Mes frères et sœurs, c'est quelque chose de sérieux. Cette foi, elle doit vous permettre de croire. Oui, on est sans force, mais la foi c'est quoi? La foi c'est quoi? C'est la confiance en Dieu. C'est, tu vas le faire. Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous aider à trouver un travail? Est-ce que vous croyez vraiment? Est-ce que Dieu peut vous aider à faire les choses en son temps, comme on l'a chanté tout à l'heure? Cette foi, ce n'est pas une foi qui lutte. Je n'imagine pas Josaphat toute la nuit tourner dans son lit en train de s'inquiéter. Non, moi je crois que Josaphat, il a dormi. Et tout le monde a dormi. Et la foi, elle ne lutte pas en transpirant à grosses gouttes. Elle se repose en remerciant Dieu parce que Dieu a dit qu'il veillerait sur nous. Dieu a fait une alliance. Josaphat, il répète les paroles de l'alliance. Et vous avez vu comment ça s'est goupillé? Quand ils chantaient, ils se sont bien chantés. Dieu avait dit, écoutez, vous n'aurez rien à faire. Tenez-vous là. Quand on vient à l'église, on se tient devant Dieu. Demain matin, vous ferez votre culte personnel, vous serez devant Dieu. Est-ce que Dieu peut, oui ou non, s'occuper de vos affaires si vous avez fait alliance avec lui? Oui, mes frères et sœurs. La foi, elle croit que Dieu veillera sur sa victoire. L'église, elle doit vivre dans la victoire. Ce n'est pas parce que vous avez une épreuve, que vous avez péché. Il y a dire, qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Écoutez, si vous avez fait quelque chose, Dieu vous l'a montré. Franchement, ça vous est déjà arrivé de pécher? Vous avez eu besoin de chercher pendant 3 mois? Ou on le sait de suite quand on a péché en principe? Soyons sérieux. On le sait, oui ou non? Mes frères et sœurs, voilà, qu'est-ce qu'il faut? Ils chantent la miséricorde. La miséricorde, ça nous rappelle souvent la communion avec Dieu, justement. Et pendant qu'ils chantaient, eh bien, les peuples s'auto-détruisaient. Ça fait, on ne sait pas quoi en penser, vraiment. Est-ce que Dieu peut s'occuper de nos problèmes simplement en nous tenant devant lui? Est-ce que Dieu peut le faire? Est-ce que vous le croyez vraiment? Combien de fois ça vous est arrivé quand vous priez de dire « mais je perds mon temps ». Ça vous est jamais arrivé de prendre une heure de dire mais je perds mon temps ». Moi je crois, comme l'a dit une Française qui a fait un travail formidable dans l'histoire du monde, elle a dit « l'adoration renferme tous les services ». Et ça j'en suis convaincu. Que quand vous vous tenez devant Dieu, Dieu fait tout. Je le crois vraiment. Mais pas si vous vous confiez dans vos efforts. Tiens, je me tiens devant Dieu, donc... Je fais des progrès. Tu vois ma foi qui grandit. Ce n'est pas une question de foi qui grandisse. Même si vous avez peur, vous pouvez mettre toute votre confiance en Dieu. 3 jours pour emporter les richesses de ce peuple qui venait s'installer à Jérusalem. C'était bien? Oui, c'est bien. Hein? 3 jours pour emporter les richesses. Mais je crois surtout que Josaphat et le peuple avaient une plus grande confiance en Dieu. Vous le croyez? Et une plus grande connaissance de Dieu. Est-ce que vous voulez le connaître un peu mieux, ce Dieu qui pourvoit à tous nos besoins? Vos yeux, est-ce qu'ils sont fixés sur Dieu? Est-ce qu'ils sont fixés sur vous, sur votre foi, sur vos progrès, sur vos prières, sur vos jeûnes, sur votre religion, sur vos, je sais pas, sur vos compétences, sur vos ministères, ou est-ce que tout simplement vos yeux sont fixés sur Dieu? Vous avez vu comment ils ont appelé la vallée? Parce qu'ils ont donné un nom à cette vallée. La vallée de Béraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Vous avez vu qu'on a pris ce texte tout à l'heure dans le psaume 85, où il nous est parlé de la vallée de Baca, la vallée des pleurs. Et vous savez que cette vallée n'existe pas. Et j'ai lu dans un commentaire qu'il se pourrait que ce soit ce jour-là qu'on ait appelé cette vallée, qui est à côté de Jérusalem, qu'on ait appelé cette vallée la vallée de Béraka, la vallée de la bénédiction. Mes frères et sœurs, cette histoire, elle est extraordinaire. Moi, ça me fait du bien que même quand on a peur, on peut crier au Seigneur. Et ce n'est pas parce qu'on a peur qu'on a péché. Et ce n'est pas parce qu'on est effrayé qu'on s'est loupé quelque part. Il y a des circonstances qui font peur. Eh bien, que vos yeux soient vraiment sur Dieu. Est-ce que Dieu peut changer la vallée des pleurs en vallée de bénédiction? Mais ça valait la peine. Mais comment vouliez-vous qu'il fasse autrement? Est-ce que vous croyez qu'à partir de ce soir, 10 juin 2012, votre vallée peut s'appeler la vallée de la bénédiction? Oui ou non? Eh bien oui, mais fixez vos yeux sur le Seigneur. Dans le psaume 84, il termine, le verset 7, pause. Moi aussi, je vais m'arrêter. Mais est-ce que ça vaut la peine de s'arrêter? Mais mes yeux, où sont-ils fixés? Le temps que je lis, ils sont fixés sur toi. Le temps que je prie. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si je fais confiance à Dieu quand je prie, ça veut dire que je fais confiance dans la prière. Il n'est pas dit, faites confiance dans vos efforts. On ne fait pas confiance à Dieu quand on prie. On fait confiance à Dieu tout le temps. Quand on prie et quand on ne prie pas. Quand on lit pas. Oui ou non? C'est ça, avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord, mes frères et sœurs? Moi, j'aime l'humilité de cet homme. Moi, j'aime cette honnêteté dans la Bible. Parce que, voyez, ces hommes qui ont amené le repos sur les autres, ils n'ont pas eu honte de dire, ben ouais, j'ai eu peur. Mais je sais qu'il y a quelqu'un de plus grand que ma peur. C'est le Dieu qui règne sur tout. Est-ce que vous croyez que Dieu règne? Mes frères et sœurs, ne craignez rien. Vous avez peur parce qu'il y a eu une affaire, eh bien, ce n'est pas pour ça que vous n'avez pas la foi. La preuve, vous l'avez eue ce soir en partageant. Apprenez à faire des pauses. D'accord? On ferme les yeux quelques instants. Et si on faisait comme ce peuple et comme Josaphat, est-ce qu'on pourrait louer le Seigneur à voix haute, à voix forte? J'en sais rien. Mais en tous les cas, faisons-le de tout notre cœur. Est-ce qu'on peut prendre 5 minutes, mes frères et sœurs? Est-ce qu'on peut prendre 5 minutes pour louer le Seigneur? Louez le Seigneur, mes frères et sœurs. On pourrait le faire au travers d'un chant, en chantant « Louez soit Dieu » si les musiciens voulaient. On n'a même pas besoin des paroles, on connaît bien ce cœur. Louez soit Dieu, louez soit Dieu. Est-ce qu'on peut le louer, mes frères et sœurs? Est-ce que vous voulez ce soir sortir en disant « Je m'en ferai un point d'honneur, je fixerai mes yeux sur Dieu ». Si vous êtes inquiet, si vous êtes dans la crainte, si vous êtes dans la peur, vos yeux sont sur le problème. Alors ce soir, prenez la victoire, dites « oui, j'ai eu peur, oui, j'ai eu peur. J'ai peur par rapport à mon emploi, mais c'est normal, j'ai compris ce soir que c'était normal, ça ne va pas occulter ma foi, au contraire, ça va me faire surmonter le mal par le bien. Louons le Seigneur à haute voix, mes frères et sœurs, tous ensemble, par ce chant, loué soit Dieu ».